Chapitre 16. Une maladresse de Monsieur Lepic. Les recherches continuaient toujours infructueusement à bord de l'Étoile polaire et du Jules Verne II. Le mécontentement causé par cette série d'insuccès se traduisait chez tout le monde par un énervement, par une mauvaise humeur qui amenait parfois dans les discussions de l'aigreur et de la brusquerie. Je crois que nous faisons fausse route, dit un jour Sundström. Nous restons là, en plein Atlantique, tandis que Tony Fowler gagne du terrain. Peut-être même est-il en train de débarquer avec ma pauvre Edda dans quelque île perdue des Antilles. Oh, je ne crois pas, répliqua Goël. Oh, vous êtes comme moi, vous n'en savez rien. Je crois que le plus simple serait d'aller croiser dans les parages des Antilles ou le long des côtes de l'Amérique du Nord. Nous aurions plus de chances de pincer le pirate au moment où il essaiera de prendre la terre. Puisque nous sommes sur la bonne piste, je crois, moi, qu'il serait très imprudent de l'abandonner. Vous avez tort, mais je vous affirme que non. La discussion, quoique demeurant très courtoise, se prolongeait ainsi quelquefois pendant fort longtemps, tantôt sur un sujet, tantôt sur un autre. De guerre lasse, Sundström finissait par se laisser convaincre et par convenir que Goël avait raison. On eût dit qu'une atmosphère de dissension et de querelle régnait à bord du sous-marin. Il n'était pas jusqu'à M. Lepic et jusqu'à Mlle Segui qu'ils eussent perdu l'une sa douceur, l'autre sa patience inlassable. Parfois, il leur arrivait de se disputer comme des écoliers pour des riens, quitte à s'accabler ensuite d'excuses et de compliments. Au fond, tous fatigués par l'attente et l'anxiété, désespérés de la perte d'Edda, n'en voulaient qu'au seul Tony Fowler, n'étaient agacés que de la malchance qui s'acharnait à rendre leurs efforts inutiles. Et ils regrettaient, aussi vite qu'ils les avaient prononcées, les paroles que leur arrachaient la contrainte et le dépit. Une fois, après une discussion plus vive que de coutume avec Sundström et Mlle Segui, Goël resta 2 jours sans sortir de sa cabine. Son absence désorganisait les recherches. Sundström ne savait plus où donner de la tête, et le Jules Verne II évoluait au hasard, fouillant au petit bonheur les massifs de Sargasse. Goël avait déclaré d'un tel ton qu'il entendait être seul, que personne n'osait aller le déranger. Monsieur Lepic s'y risqua pourtant. Son plus aimable sourire sur les lèvres, il vint frapper à la porte de la cabine de Goël. « Que désires-tu ? » demanda celui-ci, en entr'ouvrant à peine la porte et du ton mécontent d'un homme qu'on dérange. « Mais rien, » répondit M. Lepic, tout interloqué. « Je passais, ou je venais simplement faire un bout de causette avec toi, m'informer de ta santé. » La gravité de Goël ne put tenir devant la mine déconfite de l'honnête naturaliste. Il eut un joyeux éclat de rire. « Mais mon vieil ami, fit-il, je me porte admirablement, seulement j'ai pas le temps aujourd'hui de causer avec toi. J'ai besoin de réfléchir et de travailler beaucoup. » Monsieur Lepic se le tint pour dit. Il serra affectueusement la main que Goël lui tendait et se retira. On commençait à s'inquiéter lorsque, après 2 jours de solitude, Goël reparut, l'air tout joyeux et comme transfiguré, dans le salon du sous-marin. La première personne qu'il aperçut fut Sundström. Les deux hommes se serrèrent la main avec la plus énergique cordialité. « Mon cher Goël, dit Sundström, vous avez bien fait de quitter votre retraite. J'allais aller voir moi-même ce que vous deveniez. » Ces 2 jours n'ont pas été du temps perdu. J'espère au moins que ce n'est pas à la suite de notre discussion de l'autre soir que vous vous êtes renfermé par dépit dans votre cabine comme un ermite dans sa cellule. Oh non, je n'ai pas, Dieu merci, le caractère aussi mal fait. Et d'ailleurs, la vivacité de nos discussions, vous en êtes convenu comme moi, ne provient que du désir que nous avons de délivrer notre chère Edda. Mais alors, cette brusque disparition, ben, elle a eu d'autre cause que de mettre à exécution certaines idées qui m'étaient venues. Et le résultat m'a donné toute satisfaction. J'espère que, grâce à un appareil très simple dont je vais vous expliquer le fonctionnement, nous allons pouvoir pincer sans coup férir cette infâme canaille de Tony Fowler. À ce moment, Mademoiselle Séguy entra dans le salon. Elle complimenta malicieusement Goël d'avoir enfin terminé ses 2 jours de réclusion. Elle fut bientôt suivie de Monsieur Lepic, qui salua ses amis d'un bonjour retentissant et gratifia Goël en particulier d'une poignée de main qui eût fait honneur aux pinces d'un crabe-tourteau. Mais puisque nous voilà tous réunis, dit Sandström, Goël va nous mettre au courant de sa nouvelle découverte. Pourvu, ajouta-t-il avec une nuance d'inquiétude, que nous ayons à bord les matériaux nécessaires à sa construction immédiate. Rassurez-vous, reprit Gaël en souriant, je n'ai besoin que d'un appareil photographique, d'un fanal électrique, d'un accumulateur et de quelques grosses lentilles. Tout cela se trouve à bord. L'appareil sera monté et expérimenté aujourd'hui même. Mais pour que vous vous rendiez parfaitement compte de ce dont il s'agit, il est indispensable que je vous donne quelques explications préliminaires. Vous saurez qu'avant la révolution de 1789, il existait à l'île de la Réunion un vieux colon qui possédait le singulier talent d'annoncer plusieurs jours à l'avance, bien avant qu'ils ne fussent visibles au-dessus de l'horizon, l'arrivée des navires venant d'Europe. Les nègres le croyaient un peu sorcier, et ce n'était qu'un observateur attentif. Étant donné la courbure de la Terre et la parfaite transparence de l'océan sous les tropiques, il avait remarqué que les navires situés du côté de l'horizon, invisibles à l'observateur, produisait sur la limpidité de la mer certaines taches sombres qui permettaient de signaler leur présence. Je ne comprends pas bien, fit Mademoiselle Séguy. Ces navires étaient vus par transparence à travers une calotte d'eau hémisphérique. Et j'oublie de dire que, bien entendu, notre observateur avait une de ces vues excellentes qui permettent à certains marins atteints d'un strabisme spécial, que développe l'habitude de contempler de vastes étendues, de distinguer à 8 ou 10 lieues le gréement et la nationalité d'un navire qui n'apparaît que comme un léger flocon d'écume au-dessus de la mer. Mais les faits que vous racontez là sont-ils d'observation scientifique? Demanda Sandström. Oh oui, certainement, ils sont constatés par des rapports officiels. Mais la Révolution vint, puis l'Empire, l'ingénieux observateur et sa découverte tombèrent dans l'oubli le plus profond. Ah, je commence à comprendre, fit Monsieur Lepic en se levant dans sa joie, si brusquement qu'il se cogna la tête contre l'angle d'un meuble. En appliquant le principe que je viens de vous expliquer, continua Goël, je l'ai perfectionné grâce au téléautographe ou appareil à photographier à de grandes distances et grâce à l'appareil inventé par Regnard pour la photographie sous-marine. De sorte que, demanda Monsieur Lepic, impatient d'arriver à la conclusion, bien grâce à mon appareil, nous allons pouvoir étendre nos recherches dans un rayon de 10 ou 12 lieues. La moindre tache sur cliché sera examinée au microscope. Et il est hors de doute que nous découvrirons rapidement, sur une de nos photographies, la petite tache allongée que doit faire le sous-marin, le Jules Verne, photographié à une grande distance. Mademoiselle Séguy et Monsieur Lepic étaient dans leur ravissement. Quant à Ursenström, il était tellement ému qu'il ne put que serrer la main de l'ingénieur. On se mit à l'œuvre sans perdre un instant. L'ajusteur et l'électricien du bord furent mandés et aidèrent Goël au montage de son appareil que Monsieur Lepic baptisa pompeusement le détective océanique. Dès le lendemain, l'appareil put fonctionner. Goël, aidé d'Ursenström et de Mademoiselle Segui, prenait lui-même les vues des fonds sous-marins, et M. Lepic, que ses études sur les insectes avaient rendu très expert dans le maniement du microscope, examinait ensuite chaque épreuve avec une minutieuse attention. Toute la matinée, on obtint une série de clichés qui eussent fait la joie de M. Mim Edwards ou de M. Edmond Perrier. Les variétés les plus rares d'hydrophytes, d'annélides, de crustacés et de poissons s'y trouvaient reproduites avec une netteté parfaite. C'étaient des pennatules, des virgulaires, des gorgones, toute une collection de crabes aux formes tourmentées et de poissons curieusement armés d'épines et de dentelures, comme les guivres et les tarasques des légendes. Monsieur Lepic, l'étude des plantes et des animaux marins commençait à passionner au détriment de celle des insectes, poussait de temps à autre de véritables cris d'enthousiasme. Tout le monde accourait, les exclamations se croisaient. « Alors vous avez trouvé ?»« Oui, merveilleux !»« Mais parlez donc !»« Est-ce donc le Jules Verne ?»« Hein, quoi, le Jules Verne ?»« Ah oui, enfin, c'est-à-dire, non !» Bon, mais parlez-moi de ces physalies, de ces anatifs, de ces coronales. Oh, mais vous êtes insupportable de nous déranger pour ces vilaines bêtes, répliquait invariablement Mademoiselle Segui. Mais cherchez donc le Jules Verne. Oui, mademoiselle, répondait le malheureux naturaliste. Et 5 minutes plus tard, il recommençait ses exclamations. Mademoiselle Segui dut laisser Ursenström et Goël prendre seuls les clichés. Elle s'imposa à M. Lepic, qui peu à peu mit fin à ses exclamations intempestives, dans la crainte de voir la jeune fille se mettre en colère. Doucement, Mademoiselle Segui avait morigéné M. Lepic. « Voyons, lui avait-elle dit, faudra-t-il toujours vous gronder comme un enfant ? Au moment où nous sommes peut-être sur le point de dénicher le ravisseur d'Edda, vous nous faites perdre un temps précieux à nous faire contempler d'affreux poissons. »« Ah, mademoiselle, répondit Monsieur Lepic, l'amour de la science. »« Bon, c'est bon, interrompit la jeune fille. Retrouvons Edda d'abord et au gare à vous. Je vous mettrai au pain sec. » ajouta-t-elle en le menaçant gentiment du doigt. « Je me repens, mademoiselle, je me repens. Au diable, ces maudits clichés » fit-il en esquissant le geste de les jeter à terre. « Non, je vous promets, mademoiselle, d'être tranquille à l'avenir. » Et prenant la main de la jeune fille, il la baisa respectueusement en esquissant une révérence qui fit sourire mademoiselle Segui. Photographia avec acharnement pendant toute la matinée. Au grand regret de M. Lepic, les plaques qui avaient servi étaient nettoyées et préparées à nouveau. Mais on eut beau multiplier le nombre des épreuves, la tache oblongue qui devait signaler la présence du Jules Verne n'apparut pas sur les clichés. On déjeuna rapidement pour se remettre aussitôt à l'œuvre avec une ardeur fébrile. Quand l'après-midi se fut passé sans amener de résultat, le découragement commença à se faire sentir. La photographie révélait des animaux curieux, des paysages d'algues et de rocs d'un charme sauvage et grandiose, jusqu'à des épaves de navires et une troupe de requins, mais de Jules Verne, nulle trace. La nuit allait venir. C'était encore une journée de perdue. Oh, « Tony Foller doit être maintenant hors de portée de nos appareils, » dit mélancoliquement Mlle Segui. « Demain, nous serons plus heureux, » répliqua Ursenström. « Du moins, il faut l'espérer. »« Assurément, » dit Goël, soucieux et distrait. « Les épreuves deviennent de plus en plus troubles. » J'en tire encore une et ce sera tout pour aujourd'hui. Un quart d'heure après, la photographie sous-marine demande de longues pauses. Goël remettait à M. Lepic un cliché développé. Il apparut si confus et si brouillé que l'on n'y distinguait presque rien. « Oh, ce n'est guère la peine d'examiner celui-ci, » dit Ostenstrom. « Bon, voyons toujours, » fit M. Lepic, « on ne sait jamais. » Mais à peine avait-il approché ses yeux de l'oculaire du microscope, il se releva en brandissant triomphalement la plaque. « Cette fois, s'exclama-t-il, nous le tenons !» M. Lepic était si ému que ses mains tremblaient, il était égaré hors de lui. « Oui, je viens de voir le Jules Verne, » répétait-il. « Le Jules Verne, entendez-vous, et de le voir distinctement. » Malheureusement, dans ses mouvements désordonnés, il buta contre le pied de la table. Le cliché roula par terre et se cassa en plus de 20 morceaux.